Alors, l'éthique chrétienne de l'IVG ou de l'avortement, voilà un sujet difficile s'il en est. C'est peut-être un des sujets les plus compliqués, les plus passionnels, je dirais, de l'éthique, de la bioéthique pour un chrétien ou pour les églises. Celui qui soulève le plus de passion en tous les cas. La loi Veil a introduit en 75 une liberté nouvelle, une possibilité à laquelle la plupart des églises se sont très violemment opposées. Et là encore, c'est la loi catholique, bien sûr, la morale catholique qui a la position la plus carrée, la plus absolue, totalement fermée à toutes les légitimités sur l'avortement. Sous quelque forme que ce soit, et sans aucune circonstance atténuante, à part peut-être le cas où la vie de la mère serait directement mise à mal par la naissance. C'est un sujet emblématique, c'est un espèce de drapeau presque idéologique, emblématique de la résistance à la déchristianisation, même en Europe. Par exemple, l'Irlande ou la Pologne se font les champions de prise de position un peu réactionnaire pour freiner l'évolution de la loi européenne sur ce sujet. Ou bien le symbole d'un retour à des valeurs judéo-chrétiennes, c'est le cas par exemple de notre fameux Donald Trump, hein, vous savez, qui a été élu et soutenu par tous les milieux ecclésiastiques, catholiques comme protestants, fondamentalistes, aux États-Unis comme ailleurs, parce que il a eu cette prise de position contre l'avortement, ou pour limiter le droit de l'avortement, qui lui a valu le suffrage de tous les chrétiens de sa culture. Et j'étais moi-même en Corée du Sud à un moment de la nomination de Trump, et j'étais frappé d'assister que tous les protestants très engagés de Corée étaient tous comme un seul homme derrière Trump, hein, pour la seule raison qu'il était pour une restriction de la loi sur l'avortement, alors que ces prises de position, par ailleurs, auxquelles nous sommes très sensibles comme Français, contre l'immigration, contre la sécurité sociale, n'émouvaient personne. Mais cette question-là, vraiment l'avortement, c'est une sorte de question emblématique, hein, qui résume tout le reste. J'imagine aussi que pour la plupart d'entre vous, peut-être le débat est déjà clos. Hein. La question est totalement tranchée, elle est peut-être très simple. Et il suffirait que je fasse une condamnation maintenant sans appel de tout avortement pour que la conférence soit close et qu'on puisse passer à autre chose. Il est presque impossible aujourd'hui d'avoir sur ce sujet un véritable dialogue. Une véritable conversation. Il n'y a plus de débat public sur ce sujet, remarqué. Partisans et adversaires de l'IVG ont un dialogue de sourds, comme si tous les arguments avaient été comme épuisés, pour ne pas dire usés. Voilà. En réalité, le fond du débat, c'est pas de savoir si l'on est pour ou si l'on est contre. C'est une mauvaise question. Parce que dans l'absolu, il n'y a personne, ou presque, qui est favorable à l'avortement en tant que tel. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un ou lu un article qui présente l'avortement comme une expérience bénéfique, hein, que l'on souhaite à toute femme moderne. Et quelle est la femme qui est passée par là qui n'en parle pas quand même comme, et surtout comme d'un traumatisme qui laisse sur elle a posteriori des traces, des cicatrices parfois indélébiles, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan moral. Voilà. Et la fameuse loi Veil, on nous l'a rappelé tout à l'heure, elle-même, dans son préambule, peut être une dérogation, hein, une exception, à un devoir général de respect de l'être humain dès le commencement de la vie, hein, c'est-à-dire l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc la question de fond, c'est pas tant de savoir si l'on est pour ou si l'on est contre. Mauvaise question. La question, c'est de savoir si, dans une situation de péril ou de détresse, que peut parfois engendrer la conception d'un enfant. Est-ce que l'interruption de grossesse peut être envisagée comme un moindre mal, comme un pis-aller, hein, comme une dérogation acceptable? Si on répond non, la question semble réglée, sur le plan théorique tout au moins. Mais si la réponse est oui, alors l'éthique doit répondre à la question à partir de quel degré de péril ou de détresse l'interruption de grossesse peut être envisagée comme licite, hein? Quel degré? Et là, donc, est la question éthique soulevée par l'avortement. Non pas est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre, mais à partir de quel degré de péril ou de détresse cette intervention peut être considérée comme licite. Alors, quel est l'éclairage de la Bible sur la question de la parole de Dieu? Alors, je ne veux pas vous décevoir, mais la question n'est peut-être pas aussi simple qu'il en pourrait paraître. La chose peut surprendre, mais vous avez plusieurs auteurs évangéliques parfaitement respectueux de l'autorité des Écritures saintes, hein, vont parler, je cite, du silence de la loi et des prophètes sur l'avortement. Le silence de la Bible sur l'avortement. Quelqu'un comme, par exemple, Hofmeyer, dans un livre évangélique sur le sujet, affirme que la seule pratique connue et réprouvée dans la Bible, c'est le sacrifice d'enfants, le sacrifice des nouveaux-nés, tel qu'il était pratiqué dans le culte du dieu ammonite Moloch. Mais la Bible ne connaîtrait pas autre chose que ce sacrifice d'enfants, avec un caractère religieux, bien sûr, cultuel, qui est bien sûr absent, évidemment, de ce qu'on appelle aujourd'hui un avortement. On peut se référer aussi au Décalogue, hein, au sixième commandement, tu ne commettras pas de meurtre. Alors, lui aussi, on peut en faire une interprétation très, très large, hein, et très extensive, traduite souvent par une forme française très, très, très absolue, tu ne tueras point. Parce qu'on traduit le commandement par tu ne tueras point, c'est très large. Voilà, la loi ici de Dieu forme une forme d'interdit qui est essentielle pour toute société, pour toute culture. Il est important pour que la société puisse se maintenir que la mort donnée reste toujours une transgression, une transgression qui peut peut-être être tolérée dans certains cas, mais qui doit toujours être regardée comme une transgression par rapport à une règle dont le respect est jugé essentiel pour la construction de la société. Donc, il n'appartient pas à l'homme, à aucun homme, de disposer de la vie d'autrui. Et dans la tradition judéo-chrétienne, il est reconnu, affirmé que l'homme n'a pas ce rapport à la vie, n'a pas ce rapport à la mort. Hein. Selon le Deutéronome, par exemple, 32-39, c'est une des prérogatives de Dieu que de donner la vie et de la reprendre. C'est à Dieu seul qu'il appartient de pouvoir donner la vie et de la reprendre. Aussi Ecclésiaste 8, verset 1 et verset 6 à 8. La vie est reçue par les hommes comme un don de Dieu. Cette vie lui est prêtée par un tiers qu'il appelle à en jouir avec reconnaissance, au double sens de reconnaître et de remercier. Et ça se traduit notamment par l'acceptation et du commencement et du terme que Dieu lui-même choisira de lui donner. Nous n'avons pas, en tant qu'être humain, à interférer en cela. Voilà. Ceci dit, quand on lit le décalogue dans le texte hébraïque avec un peu plus de rigueur, on se rend compte que le sixième commandement n'a pas exactement cette portée-là. Il y a plusieurs termes dans l'hébreu, trois, pour désigner l'acte de mettre à mort ou l'homicide, voilà. Et ici, le texte hébraïque utilise un terme très spécial, très peu utilisé dans l'Ancien Testament, qui désigne, à proprement parler, l'assassinat ou le meurtre. Non pas toute forme d'homicide ou d'atteinte à la vie humaine, mais un homicide d'un type très particulier qu'on appelle l'assassinat ou le meurtre. C'est-à-dire lorsqu'un individu de sa propre initiative et autorité, voilà, porte atteinte à la vie de son prochain avec une motivation criminelle, le vol, voilà, se débarrasser d'une personne embarrassante, détruire son pouvoir, etc. Une motivation criminelle ou bien la soif d'une vengeance ou d'une vendetta personnelle. Voilà. Mais le terme choisi dans la Bible, dans le Décalogue, n'exclut pas qu'il puisse y avoir dans la loi de Dieu un acte de tuer, un homicide, qui soit fait sous l'autorité de l'État et qui ne serait pas un meurtre au sens étroit du terme, et qui ne serait pas formellement défendu par le Décalogue. Dans l'hébreu, le terme utilisé ne sacralise pas la vie humaine au point d'interdire absolument qu'on y touche. Et la preuve en est que dans la suite même du texte, au chapitre suivant, vous savez qu'il y a deux versions du Décalogue dans la Bible, Exode 20 et Deutéronome 5, eh bien, dans Exode chapitre 21, par exemple, dans la suite du texte du Décalogue, vous avez les stipulations de la loi mosaïque qui concernent la peine de mort, précisément, hein, et qui frappe de façon très brutale l'homosexuel, par exemple, chapitre 21, ou bien celui qui ne respecterait pas le sabbat, qui est le quatrième commandement du Décalogue, etc. Sans que le narrateur n'éprouve le besoin de justifier ses ordres ou bien d'excuser ses ordres, ou sans qu'il ait conscience que ceci pourrait contredire ce qui était dit au sixième commandement. Alors, revenons à notre sujet. Comprenez donc que, compte tenu de ces précisions, l'application du sixième commandement à l'avortement, hein, c'est quelque chose qui peut se discuter. Hein, quelque chose qui peut se discuter, dans la mesure où les motifs de l'interruption de grossesse n'auraient rien à voir avec, par exemple, une soif de vengeance, ou les motifs crapuleux dont on a parlé, dans la mesure où ils résulteraient d'une décision de l'autorité sanitaire et sociale, qu'il est un acte légal et encadré par la loi, pratiqué par un service public, et de surcroît financé par la sécurité sociale. Voilà. Vous comprenez le malaise. Hein, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut davantage qu'une référence au Décalogue pour mettre en question la légitimité de l'avortement. Hein. Je ne dis pas que cet argument doit être complètement rejeté. Le Décalogue a son mot à dire dans ce débat. Mais il nous faut plus, hein, pour pouvoir mettre en question aujourd'hui l'avortement. Il faut aussi un éclairage indirect sur deux choses que j'aborderai tout à l'heure. Je dirais la doctrine biblique de la création de l'homme à l'image de Dieu. La création de l'homme à l'image de Dieu. Et puis deuxièmement, les très beaux textes comme ceux qui sont mentionnés sur le flyer de la journée, comme le psaume 139, sur la valeur de la vie humaine, j'irais avant la naissance, dans le sein maternel. Voilà les textes qui peut-être seront les plus riches pour notre sujet. On va y revenir. Avant cela, voilà, en éthique chrétienne ou non chrétienne, le débat se porte sur une question théorique ou dogmatique importante, qui est le débat sur le statut de l'embryon. Le statut de l'embryon. Voilà, est-ce que l'embryon est une personne humaine, hein, auquel on doit tout le respect dû à la personne humaine ou non, etc. Alors, pour faire court, on a peu de temps, il y a deux écoles principales sur ce sujet, qu'on appelle une école vitaliste ou ontologique sur le statut de l'embryon, et une définition, une doctrine plus relationnelle ou bien personnaliste. La définition ontologique, la première, ou vitaliste, c'est globalement la position de l'Église catholique. C'est aussi la position de beaucoup de protestants évangéliques qui sont très hostiles à toute forme d'avortement. Et puis, la définition relationnelle ou personnaliste, c'est celle qui prévaut globalement dans la famille protestante plus libérale, voire libéralisante, comme aussi dans la société civile, et qui adopte sur l'interruption de grossesse une position qui est ouverte. Alors, sous le nom d'approche ontologique ou vitaliste, on range toutes les définitions du statut de l'embryon voilà, qui se fonde sur une notion, je dirais, objective de nature humaine. Objective de nature humaine. Une nature humaine contenue dans l'être, une qualité qui serait intrinsèque physiquement à l'embryon. Voilà. Et quels sont les signes qui manifestent la présence de cette nature humaine ? À quels signes pouvons-nous la reconnaître ? Réponse des partisans de la position vitaliste, dans les indices biologiques qui indiquent la présence d'un individu, d'un membre de l'espèce humaine. Là où est ce patrimoine génétique, là est l'homme. Et inversement. C'est pourquoi la position vitaliste réclame un droit à la vie et au développement pour tout patrimoine génétique d'ascendance humaine, indépendamment de tout le reste, indépendamment de toutes circonstances externes, indépendamment de considérations liées à l'environnement, indépendamment de son développement. Les défenseurs de ce point de vue font remarquer, avec un argument qui semble imparable, que toute personne humaine est le fruit d'un développement physique et spirituel qui est issu d'une seule cellule contenant la totalité du patrimoine génétique humain. En conséquence, ils en déduisent, par retournement de causalité, que toute cellule qui contient ce patrimoine génétique est une personne humaine, sinon actuelle, du moins potentielle, qui a autant de droits que l'individu adulte. Voilà, il y a là un argument qui semble très, très logique. Avec toutefois un petit paradoxe que ne manque pas de lui opposer ses adversaires, c'est qu'on a au départ une conception de l'homme qui se veut très haute, très spirituelle, souvent inspirée par la théologie, qui se réfère à la transcendance, qui se réfère à la création divine, etc., mais qui, dans les faits, dans la pratique, se réduit à une définition, somme toute, très matérialiste, très biologique de ce qu'est la vie humaine, puisqu'elle considère que la nature humaine est présente dans chaque embryon, indépendamment de son environnement, indépendamment de son développement ultérieur, indépendamment notamment des relations qui vont se tisser autour de cet embryon, indépendamment de son histoire. Et on va reprocher à cette doctrine vitaliste d'avoir une vision de l'homme trop matérialiste. C'est très paradoxal, très matérialiste, très réductrice. Et la chose est à ce point paradoxale qu'aujourd'hui, ce sont les partisans de l'approche relationnelle, donc la deuxième, plus libérale, qui vont reprocher aux partisans de l'approche ontologique d'avoir une définition de l'homme trop matérialiste, trop réductionniste. En bref, de réduire l'homme à son substrat biologique. Alors, sur le plan biblique maintenant, les appuis de la position ontologique sont assez nombreux. Voilà. Et là, je reviens aux deux points que je n'ai pas encore développés. L'idée que la dignité humaine doit être reconnue à l'embryon avant et indépendamment la place qui lui sera reconnue dans la vie sociale, avant le rôle qu'il pourra jouer dans le jeu social, cette conviction est très fortement ancrée dans la Bible. Notamment dans une saine théologie de la création de l'homme à l'image de Dieu, c'est mon premier point, d'une droite doctrine de la création découle la conviction que la dignité de l'être humain repose sur ce qu'il est, à savoir créature de Dieu. La dignité de chaque être humain repose sur le fait qu'il soit reconnu créature de Dieu. Il est né de son initiative, il est né de l'initiative de Dieu. C'est la présence et l'action du Créateur qui fondent la dignité et le respect qu'on lui doit. Sa dignité, donc, ça rejoint la discussion avec Joël à table, sa dignité ne repose pas d'abord sur ce qu'il fait, sur ce qu'il fera, non pas sur sa beauté, non pas sur sa réussite sociale, non pas sur son quotient intellectuel, non pas sur le fait qu'il soit ou non désiré, mais sur le simple fait qu'il l'est et qu'il est comme tel reconnu enfant, créature de Dieu. Ici, la dignité de la personne ne se laisse pas instrumentaliser. Et il est évident, vous comprenez, qu'une telle vision, conception, fait immédiatement regarder avec de tout autres yeux, par exemple, une personne handicapée, un vieillard grabataire, l'enfant mongolien, ou bien des embryons surnuméraires congelés, hein, avec de tout autres critères que ceux imposés par aujourd'hui nombre de stéréotypes sociaux. Le deuxième élément dans l'Écriture, c'est ce que l'Écriture dit de la valeur anténatale de la vie humaine. Très beau texte, comme le psaume 139. Je lis deux extraits. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. » Et verset 13, « C'est toi qui as formé mes reins, c'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je sois une créature aussi merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'étais fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. » Alors le psalmiste ici qui parle est une personne adulte, croyante, consciente, éclairée par l'Esprit Saint, et qui dans la foi discerne, reconnaît tout ce qu'il doit à l'action créatrice de Dieu et à ses soins bienveillants, à son initiative, à son habileté, à sa prescience. Et puis, se retournant, essayant de mesurer l'étendue spatiale de cet accompagnement, de cette vérité, il discerne qu'elle va jusque dans la période prénatale. Et il ne fait pas le doute, à ses yeux de croyant, que Dieu conduisait, réglait, observait déjà son développement prénatal, alors qu'il n'était encore qu'une masse informe et invisible. Très belle et riche parole, parole des psaumes. Ceci dit, les implications éthiques de cette parole et de celle qui lui ressemble ne va peut-être pas aussi loin qu'un évangélique le dit généralement. Voilà. Il ne fait pas de doute que Dieu conduisait, réglait, observait son développement prénatal, que sa vie, dès ses premiers soubresauts invisibles, s'est développée au sein d'un dessein créateur. Bien avant sa mise au monde par l'accouchement, l'être humain ici est déjà sous l'action bienfaisante de Dieu, même au temps où le petit homme n'est pas encore perceptible, même aux yeux de ses parents. Mais ayant dit cela, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. En particulier, la question de la mort de l'enfant éventuelle n'est pas abordée. La question de la mort de l'enfant, que ce soit par avortement ou pour toute autre raison, n'est pas évoquée de manière directe. Donc, que dit le texte ? Qu'est-ce qu'il dit ? Voilà. On peut par exemple comprendre de ce texte qu'il serait normal d'en déduire que voilà, tous les jours de la vie de l'embryon, quel qu'il soit, nombreux ou pas nombreux, tous les jours de la vie de l'embryon sont tous effectivement inscrits dans le grand livre de Dieu, en leur nombre exact. Voilà ce que dit le texte, sans plus ni moins. Tous les jours de la vie de l'embryon sont inscrits dans le grand livre de Dieu. Ce texte, on dit qu'une vie même très courte, même invisible, devant Dieu est une vie à part entière, avec un V majuscule, et qu'elle est l'expression d'un dessein éternel qui est revêtu d'une infinie dignité. Voilà. Et c'est une parole qui peut consoler, par exemple, des parents qui perdent un enfant par fausse couche, hein, et qui se demandent qui est leur enfant, hein, et quel est son statut devant Dieu, quelle est sa relation avec Dieu. Eh bien voilà, c'est la vie de ton enfant, même si elle a été très brève et fugitive, l'enfant que tu as porté, que tu as perdu, est aux yeux de Dieu une vie humaine à part entière, dont chacun des jours était infiniment précieux et inscrit dans son livre. Voilà la consolation, je dirais, que nous apporte le psaume. Voilà. On trouve aussi d'autres textes, je passe rapidement, qui associent la vie prénatale avec la vocation, avec le ministère. et qui sont peu cousins de notre sujet. C'est le cas d'Ésaïe 49, verset 5. Voilà. Il m'a formé dès le sein maternel pour être son serviteur, pour amener à lui Jacob. Ou Jérémie, c'est très connu, chapitre 1, verset 5. Alors que avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, déjà je te connaissais. Donc avant même sa conception, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais déjà consacré et établi prophète pour les nations. Voilà des textes qui soulignent l'antériorité de la vocation de Dieu sur toute prestation humaine. Non seulement avant que l'individu ne naisse, ne vienne au monde, mais avant même qu'il ait été conçu. De même, Paul, pour terminer, Galates 1, 15, qui parle du père de sa vocation en disant « Celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. » Voilà, bref, tous ces textes témoignent de la dignité que revêt aux yeux de Dieu la vie humaine anténatale, une dignité qui repose non pas sur la prestation de l'individu concerné, mais sur le regard que Dieu, encore une fois, porte sur lui dans sa grâce précédente et antérieurement à toute performance ou contre-performance. Voilà, la position ontologique s'accorde, je dirais, très naturellement et intègre totalement les données bibliques que nous venons d'évoquer. Voilà, la question critique qui est posée ici par notre adversaire non-vitaliste peut quand même être entendue, comme par exemple Jean-Marie Thévaud, l'éthicien de Lausanne. D'une confession rétroactive, peut-on passer à une affirmation éthique anticipatrice ? Psaume 139, hein, rappelez-vous le discours, une confession rétroactive, peut-on passer, aboutir à une affirmation éthique anticipatrice, hein. Voilà, parce que ce genre de connaissance, on ne la possède d'aucun homme a priori. Ici, c'est un être adulte, croyant, qui parle rétroactivement de son propre parcours. Mais il n'est pas établi que dans le plan de Dieu, tous les hommes aient reçu la vocation d'être prophète, a priori. Ce qui est vrai pour Ésaïe, ce qui était vrai pour Ésaïe, ne l'est pas forcément pour chacun d'entre nous. Cette vocation pouvait avoir un caractère particulier. Voilà. Donc, voilà, ça ne signifie pas que Dieu est un projet de vocation prophétique particulière et identique pour chaque embryon. Voilà. C'est pourquoi fonder le respect que l'on doit à l'embryon sur ces textes est aussi quelque chose qui peut se discuter. Ça suppose acquise un préambule qui peut se discuter. La faiblesse de la position vitaliste, je vous l'ai dit, première remarque et critique, une sorte de réductionnisme matérialiste, hein. La deuxième critique, c'est de se référer abusivement au concept de personne humaine pour défendre la dignité de l'embryon, sans conscience de l'ambivalence du vocabulaire utilisé. Pourquoi ? Parce que en philosophie classique, en littérature, la personne désigne l'acteur de la pièce de théâtre, celui qui joue un rôle dans le jeu social, et qui donc a un visage, un nom, une identité, et surtout une parole. C'est cet ensemble qui constitue la personnalité, qui fait l'identité personnelle. C'est pourquoi affirmer que la vie fœtale a ses tout débuts, hein, une seule cellule, et celle d'une personne, c'est, disent-ils, ôter au terme de personne toute intelligibilité. Et qui va fonder le respect qu'on doit à l'embryon sur sa personnalité, définie au sens philosophique? Eh bien, en réalité, ce ne sont pas les tenants de l'approche ontologique, mais ce sont les autres. Ce sont les tenants de l'approche relationnelle, ou, pour cette raison, appelée personnaliste. Effectivement, ce sont eux qui fondent le respect que l'on doit à l'embryon sur le degré de personnalité au sens philosophique qui lui est reconnu, son degré de personnalité et le rôle qu'il va jouer dans le jeu social. Ce qui justifie, de ce point de vue, que lorsque cette relation sociale est inexistante, autour de l'embryon, pensez par exemple à ces dizaines de milliers d'embryons surnuméraires congelés dans l'azote liquide et qui sont déconnectés de tout projet parental, ils sont déconnectés, ils sont hors-circuit, eh bien, ça justifie que leur existence biologique puisse être interrompue sans qu'un meurtre ou un homicide soit commis. Parce qu'on est en dehors de l'humanité. Alors, quelques mots complémentaires sur cette approche relationnelle. Ce qui est frappant dans cette école, c'est qu'on va avoir des concepts propres et nouveaux, un peu surprenants. On va parler par exemple d'un processus d'humanisation de l'embryon, qui est un processus d'humanisation progressive. Voilà, une terminologie caractéristique de cette école. Les avocats de l'école vitaliste, eux, vont s'opposer à ce vocabulaire sur l'humanisation progressive. Par exemple, dans l'encyclique catholique Donum Vitae, on trouve cette belle déclaration. Dès que l'ovule est fécondé, se trouve inaugurée une vie qui n'est ni celle du père ni celle de la mère, mais d'un nouvel être humain qui se développe par lui-même. Il ne sera jamais rendu humain s'il ne l'est pas déjà. Il ne sera jamais rendu humain s'il ne l'est pas déjà. Et puis, alors, la grande objection, c'est... depuis quand est-ce que la valeur d'un enfant, depuis quand est-ce que la valeur d'un être humain dépendrait-elle du seul intérêt que lui portent les autres? Depuis quand la valeur d'un être humain dépendrait du seul intérêt que lui portent les autres. J'ajouterais personnellement cette autre objection. On ne peut pas dire que dans la position ontologique, la notion philosophique de personne, comme être de relation, soit totalement évacuée. Parce que dans la position ontologique, il y a bien une relation autour de l'embryon qui, dès l'origine, fonde le respect qu'on lui doit. Mais cette relation, c'est celle que Dieu entretient avec l'embryon. On ne parle pas des hommes, on ne parle pas des parents, on ne parle pas de l'entourage social, mais on parle de Dieu. Dans la position vitaliste, cette relation, il y a bien une relation qui fonde le respect qu'on doit à l'embryon. Mais cette relation, c'est celle que Dieu lui-même entretient avec lui. Alors, un petit mot encore, pourquoi s'entêter alors dans la position vitaliste à défendre bec et ongles que l'embryon serait bel et bien une personne humaine, même pas une personne humaine potentielle, mais une personne humaine actuelle? Pourquoi ce combat du point de vue juridique? Donc là, je parle sous le contrôle de notre spécialiste, qui corrigera tout à l'heure. Alors, il me semble, moi, très amateur en droit, pour nous corriger, c'est pour une raison juridique, c'est pas du tout pour une raison philosophique ou théologique, c'est pour une raison purement juridique. C'est que c'est la seule manière de garantir à l'embryon les droits et la protection qu'on veut lui assurer. Dans le droit, il n'existe que deux catégories, deux chapitres, vous me corrigerez, ce sont les biens et les personnes. Les biens sont les objets du droit et les personnes sont les sujets du droit. Or, si vous voulez assurer, faire de l'embryon un sujet de droit, vous n'avez pas juridiquement d'autre choix. C'est juste que vous n'avez pas d'autre choix que de revendiquer son insertion dans la catégorie des personnes. Voilà. Alors actuellement, c'est peut-être une personne potentielle, c'est très compliqué, c'est la naissance qui constitue la personnalité juridique. Voilà. Mais tous ceux qui ont milité pour le statut ontologique ont réclamé pour l'embryon le statut de personne juridique, ce qui était beaucoup plus que d'ailleurs ce qui était avant. Donc deux catégories, les sujets du droit, les objets du droit. Autrement, l'embryon court rapidement le danger d'être assimilé à la catégorie des objets ou des choses, d'être réifié, comme on dit, chose objet de droit et non pas personne sujet de droit. Et puis rien n'empêche alors que la protection des embryons puisse être subordonnée à des règles d'utilité, d'intérêt, ou puisse se relativiser, voire être détruit. Christine Boutin, qui à l'époque était le champion de cette défense-là, dans son ouvrage « Une éthique sans citoyen » au sujet des embryons, écrit « Le seul moyen de refuser que l'embryon puisse être considéré comme une chose est de l'affirmer comme une personne actuelle et non potentielle. » Le seul embarras, c'est que cet argument juridique pose de nouveaux problèmes dans le monde juridique, que peut-être n'ont pas mesuré à leur juste portée ceux qui ont eu cette revendication. Par exemple, dans le domaine successoral. Tous les embryons congelés dans l'azote liquide, aujourd'hui, sont tous des héritiers potentiels, hein, des ayants droit, hein, en matière d'héritage, ça deviendrait très compliqué. Hein. Et il y a des tas de romans et de films qui ont été écrits sur cette problématique. Hein, voilà. Il faut se rappeler que dans l'optique ancienne, on n'entrait pas dans le droit par la conception, mais on entrait dans le droit comme personne par la naissance. Hein. C'est la naissance qui est constitutive de la personnalité juridique. Hein. D'où des questions un peu délicates, on aurait pu en parler aussi, sur par exemple, le droit aux obsèques, hein, pour des embryons, hein, après des fausses couches par exemple, ou après un avortement. Hein, la question du droit à l'obsèque qui est assez compliquée. Hein. Voilà, il y a aussi des procès, j'ai quelques relevés de procès ici dans mes notes. Lorsque dans un accident de voiture, par exemple, vous provoquez, vous blessez une femme enceinte qui perd son enfant du fait de l'accident, est-ce que vous êtes coupable de coups et blessures sur la personne de la mère ou vous êtes coupable d'homicide sur la personne de l'enfant? Voilà. Eh bien, si l'enfant meurt... je dirais in utero pendant l'accident, vous êtes reconnu coupable de coups et blessures. Mais si l'enfant vit ne serait-ce que quelques heures après un accouchement un petit peu en catastrophe et meurt à l'hôpital 2 heures après, vous êtes reconnu coupable d'homicide involontaire. C'est très compliqué. Voilà, j'ai largement dépassé mon temps, je vais m'arrêter là. Je n'ai pas parlé du tout de questions d'accompagnement, de questions de pastoral, de questions de discernement des différentes situations, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre les différentes requêtes en matière d'avortement d'un point de vue éthique. Voilà.
Des questions
mais on pourra aborder tout ça tout à l'heure. Merci beaucoup.